et à 18h, c'est l'heure du journal avec vous, Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La facture est réduite pour Jérôme Kerviel. L'ancien trader a été condamné au civil à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale, bien loin de la somme initiale de près de 5 milliards d'euros. Nous serons avec Florence Turme pour un décryptage au début de ce journal. Michel Sapin demande aussi à son administration d'examiner les conséquences de cette décision sur la situation fiscale de la Société Générale. La maire de Calais, Natacha Bouchard, se lance dans une épreuve de force avec l'État. Objectif, obtenir l'arrêt des travaux du mur anti-bruit censé protéger la rocade portuaire de sa ville des intrusions de réfugiés, travaux financés par la Grande-Bretagne. Les explications à suivre de Mathieu Darrier. Alain Juppé dénonce le durcissement du discours de son rival Nicolas Sarkozy dans le journal Le Monde cet après-midi. Analyse à suivre de Stéphane Robert. Enfin, c'est le dossier du journal de 18h. Alors que les raids aériens ont repris à Alep depuis la nuit dernière en Syrie, causant la mort de 30 civils, nous irons en Jordanie. Nadine Epstein a rencontré des réfugiés syriens qui tentent de se refaire une vie à l'extérieur des camps d'aide humanitaire. Dans le procès civil de Jérôme Kerviel, la cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt en début d'après-midi. L'ancien trader a été reconnu partiellement responsable du préjudice causé à la Société Générale en 2008. Il ne devra plus verser à son ancien employeur les 4,9 milliards d'euros exigés jusqu'ici, mais seulement 1 million d'euros. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Comment faut-il comprendre cette décision ?
Alors c'est une décision qui semble convenir à l'une et l'autre des parties, même si elles en livrent deux analyses diamétralement opposées. Dans son arrêt, la cour d'appel de Versailles déclare Jérôme Kerviel partiellement responsable du préjudice causé à la Société Générale. Elle rappelle d'ailleurs la condamnation définitive prononcée au pénal, 5 ans de prison dont 3 fermes. Et sur ce volet civil, elle le condamne à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à la banque qui lui en réclamait 4,9 milliards. Mais pour autant, Jean Veille, l'avocat de la Société Générale, se déclare satisfait.
Je trouve cette décision tout à fait intelligente, posée et compréhensible par le peuple français, alors que nous avions une décision qui n'était pas exécutable, puisque 4,9 milliards personnes ne pourraient le payer, en tout cas pas moi, et je ne pense pas davantage M. Kerviel. Aujourd'hui, la Cour d'appel, examinant la situation, a considéré qu'il avait la capacité de payer 1 million et le condamne à ce montant-là.
Cela dit, si la Cour d'appel de Versailles a ramené à 1 million le montant des dommages et intérêts, c'est bien parce qu'elle estime que les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus et le préjudice qui en a résulté pour elle. Ce que n'a pas manqué de souligner David Koubi, l'avocat de Jérôme Kerviel.
On vous parle depuis 9 ans d'un dossier à 4,9 milliards d'euros. Et en définitive, vous avez ici 28 pages qui fustigent toutes les fautes de Société Générale et qui ramènent ce préjudice à 1 million d'euros. Mais il y a un point qui me semble plus important que ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Je vous rappelle que Société Générale avait siphonné 2,2 milliards d'argent public. Donc aujourd'hui, quelqu'un à Société Générale doit préparer un stylo et un chéquier. Il paraît que nous avons un budget déficitaire et il paraît que Michel Sapin est en train d'essayer de le boucler.
Allusion au bonus fiscal dont la Société Générale avait bénéficié en tant qu'entreprise déficitaire et victime de fraude. Un bonus que Bercy pourrait dès lors lui demander de restituer. Ce soir, le groupe bancaire pense être à l'abri de cette demande, mais les équipes de juristes du ministère des Finances planchent déjà sur les termes de l'arrêt avant de livrer leur propre décision.
Merci Florence Sturm pour vos explications. Natacha Bouchard engage un bras de fer avec l'État à propos du mur anti-bruit qui doit protéger une partie de la rocade portuaire de Calais contre les intrusions de réfugiés. La maire de Les Républicains a fait dresser un PV d'infraction sur le chantier et dans 8 jours, elle le fera stopper définitivement si l'État poursuit la construction. L'élu estime que ce chantier, financé par la Grande-Bretagne, n'a plus lieu d'être maintenant que la jungle doit être démantelée. Explication de Mathieu Darrier.
Un agent assermenté de la ville s'est présenté sur le chantier. Il a constaté des infractions au code de l'urbanisme et de l'environnement. Un PV a été établi car le site est protégé et il est situé en zone de risque technologique avec 2 usines Seveso à proximité. Des arguments juridiques contre un mur dont Natacha Bouchard ne veut plus. La priorité, c'est la disparition de la jungle.
Très clairement, c'est la crainte de se dire on nous annonçait un démantèlement avant la fin de l'année, que c'est peut-être pas tout à fait qui va être fait puisque le maire de Calais ne je ne sais pas quand, comment, parce que si c'est pour dire « Ah bah oui, mais non, maintenant le démantèlement, ça va se faire en 6 mois, 7 mois, pour qu'au bout du compte, on voit revenir au fur et à mesure les migrants. » Moi, ce démantèlement, on nous l'a promis, c'est un engagement du ministre. Mais comme il nous a dit que ça se ferait avant la fin de l'année, pour moi, le mur n'a pas lieu d'être.
Ce mur qui focalise toutes les attentions n'est en fait que le prolongement sur 1000 mètres jusqu'à la zone d'activité économique voisine, des dizaines de kilomètres de barrières doubles et parfois triples rehaussées de barbelés qui ont été installés ces derniers mois tout autour du port de Calais et du tunnel sous la Manche.
Précision de Mathieu Darrier de France Bleu Nord, la préfecture du Pas-de-Calais estime dans un communiqué que ce chantier doit se poursuivre. Arrêter la construction de ce mur végétalisé serait envoyer un message d'impunité aux passeurs, est-il notamment précisé. Essuyant régulièrement les coups de Nicolas Sarkozy, dont la campagne ne cesse de se droitiser, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, se défend dans le journal Le Monde cet après-midi. En référence à l'obsession identitaire de son adversaire, l'ancien Premier ministre déclare « Si nous continuons comme ça, nous allons vers la guerre civile. Moi, je veux la paix civile. » Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Anne.
Cette interview montre que cette campagne se cristallise autour des deux favoris.
Oui, dans cette interview au journal Le Monde, Alain Juppé répond point par point à Nicolas Sarkozy. D'abord sur les Gaulois. Sarkozy avait dit en début de semaine que quand on devient français, nos ancêtres sont les Gaulois. Il y a quelques années, il disait le contraire, répond Alain Juppé. Sous-entendu, Nicolas Sarkozy raconte n'importe quoi pourvu que ça lui rapporte des voix. Et le maire de Bordeaux poursuit sur un positionnement à l'exact opposé de celui de son adversaire. Alors que Nicolas Sarkozy prétend, comme en écho à Marine Le Pen, fermer les frontières, mater la religion musulmane, forcer les Anglais à renégocier les accords du Touquet et régler en quelques semaines la question des migrants de Calais, Juppé répond qu'il y a une hystérie disproportionnée qui se déclenche sur le simple mot de musulman, que lui propose des réformes faisables et réalistes, que si l'on continue comme ça, on va vers la guerre civile, vous l'avez dit, et que lui veut au contraire la paix civile. Bref, Alain Juppé entend faire passer Sarkozy pour un irresponsable qui exacerbe les sentiments les plus vils et les plus belliqueux, quitte à faire basculer la nation dans le chaos, et que face à ce risque de chaos, il n'y a qu'un rempart, c'est lui, Juppé. On voit là effectivement que la campagne pour la primaire à droite se cristallise à travers deux stratégies qui s'opposent. Sarkozy, lui, fait le pari qu'une primaire, comme aux États-Unis, ça se déroule en famille, que c'est essentiellement un camp qui vote, qu'il faut donc s'adresser aux militants les plus politisés, les plus fervents, les plus radicaux de son propre camp. C'est la raison pour laquelle il en fait des tonnes, quitte à raconter n'importe quoi, parce que tout ça résonne comme une grosse caisse dans les médias et que ça lui permet encore une fois de dicter les thèmes de campagne et l'agenda. Alain Juppé, au contraire, endosse le costume de l'homme d'État raisonnable, rassembleur, faisant le pari que cette primaire attirera des électeurs bien au-delà du cœur militant de la droite. Et il actionne cette corde qu'il sait sensible et qui a fait gagner François Hollande en 2011. « Je suis le seul, dit-il, qui peut battre largement Marine Le Pen, car il sait qu'à droite, on suit d'abord et avant tout le général qui permettra de remporter la bataille. » Deux favoris, donc deux stratégies, et pour l'instant, ils sont à égalité dans les enquêtes d'opinion.
L'analyse de Stéphane Robert. À 7 mois de l'élection présidentielle, le gouvernement se targue d'avoir sauvé la sécurité sociale. Marisol Touraine, qui présentait cet après-midi son projet de loi de financement de la sécurité sociale, annonce un quasi-retour à l'équilibre du régime général l'an prochain, avec un déficit aux alentours de 400 millions d'euros, selon la ministre de la Santé. Sur les 4 branches du régime général, 3 seront pratiquement en excédent. Quant à l'assurance maladie, son déficit sera le plus bas depuis 2001. Néanmoins, ces résultats sont plus à mettre en lien avec la croissance qu'avec la politique du ministère de la Santé. C'est l'analyse en tout cas de Gérard de Pourvouville, économiste de la chaire Santé à l'ESSEC.
80% ou 85% des recettes de l'assurance maladie sont quasiment directement indexées sur l'activité économique. À peu près 50% vient des cotisations sociales. Alors le rendement de ces cotisations sociales, bien entendu, baisse quand le chômage augmente, mais il augmente aussi quand la masse salariale privée, donc les gens qui sont en emploi et le total des salaires versés, augmente. Or, malgré la crise et malgré l'augmentation du chômage, la masse salariale privée, donc le total des salaires versés pour les gens en activité dans le privé, a continué d'augmenter. Et donc si l'activité économique repart, en plus, donc ça peut vous paraître surprenant, mais sur les 3 ou 4 dernières années, la masse salariale privée, donc les salaires qui ont été versés, dans le total des salaires qui ont été versés dans le privé, a augmenté régulièrement de 1,5 à 2% par an. Par ailleurs, depuis 2008, il y a une vraie modération de l'ensemble des dépenses de santé, pas simplement les dépenses remboursées. Et donc les dépenses de santé croissent environ au taux de à peu près 2% par an. Et la plupart des économistes vous diront qu'aujourd'hui, avec 2% ou un peu plus de 2% d'augmentation du PIB par an, les comptes de l'assurance maladie, avec le niveau de dépenses actuelles et la maîtrise des dépenses actuelles, les comptes de l'assurance maladie sont à l'équilibre.
Des propos recueillis par Anne-Laure Chouin. Des juges d'instruction vont enquêter sur le scandale de la Dépakine, un antileptique prescrit à des femmes enceintes malgré les risques connus pour la santé du fœtus. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire qui fait suite à l'enquête préliminaire menée sous son autorité depuis décembre 2015. Alors que la France vient de vendre 36 Rafales à l'Inde, le groupe français Suez Environnement vient de remporter le contrat de la construction et de l'exploitation d'une nouvelle usine de dessalement à Playas de Rosarito, au Mexique, montant total 389 millions d'euros. Montant total de ce contrat, Suez participera ensuite à l'exploitation du site pendant 37 ans. Ce sera la plus grande usine de dessalement d'eau de mer du continent américain. En Syrie, près de 30 civils ont perdu la vie dans des raids du régime et de Moscou contre les quartiers rebelles d'Alep. Au moins 40 frappes aériennes ont touché l'agglomération divisée en deux depuis 2012, selon l'OSDH. Des frappes qui font suite à l'échec la nuit dernière d'une réunion du groupe de soutien à la Syrie à New York. Les États-Unis et la Russie n'ont pas pu s'entendre sur une reprise de la trêve qu'ils avaient négociée au début du mois. Les précisions de Valérie Crova.
Pour reconquérir la totalité d'Alep, l'armée syrienne a prévu une offensive en deux temps. Tout d'abord, une intensification des raids aériens sur les quartiers tenus par les rebelles. Depuis 4 ans, la deuxième ville de Syrie vit au rythme des explosions des barils largués par les hélicoptères du régime. Mais rien de comparable avec ce qui s'abat depuis hier sur certains secteurs d'Alep. Des avions de reconnaissance font du repérage, puis des avions de chasse russes ou syriens tirent des missiles. Le but est d'anéantir les groupes qui combattent à Alep et en particulier les djihadistes du front Fatah al-Sham, anciennement front al-Nosra, que les Russes et les Syriens assimilent toujours à Al-Qaïda malgré sa prise de distance avec l'organisation terroriste. Très bien équipés et entraînés, les combattants du Fatah al-Sham fédèrent d'autres groupes rebelles qui ont réussi au début de l'été à desserrer l'étau autour d'Alep avant que l'armée syrienne ne rétablisse son siège et coupe leur principal axe de ravitaillement vers la Turquie. Il ne dispose aujourd'hui d'aucune marge de manœuvre et c'est bien de cela que le régime et ses alliés russes et iraniens entendent profiter. Dans un second temps, une intervention terrestre devrait être lancée. Son déclenchement dépendra des résultats des frappes en cours qui pourraient s'étaler sur plusieurs jours.
Par ailleurs, l'ONU cherche une nouvelle route pour envoyer de l'aide aux 250 000 habitants qui vivent à l'est d'Alep. La principale route, dite de Castello, n'étant toujours pas démilitarisée, ce qui était pourtant prévu dans l'accord de cessez-le-feu entre Russes et Américains. Cette situation sur le terrain, les réfugiés syriens en Jordanie la suivent de près, en particulier ceux qui sont arrivés depuis quelques années et qui ont réussi à vivre à l'extérieur des camps de réfugiés dans des localités jordaniennes. Bonsoir Nadine Epstein.
Bonsoir.
Vous rentrez de Jordanie. Hier, vous nous avez emmenés dans ces camps de réfugiés syriens. Aujourd'hui, donc, nous sortons et vous avez rencontré Ramiz.
Ramiz, 32 ans, est arrivé en Jordanie il y a 3 ans, en 2012. Dans une rue de Damas, il a marché sur une mine antipersonnelle. Ses deux jambes ont explosé. Opéré, il porte aujourd'hui des prothèses qui lui permettent de retrouver progressivement son autonomie. Farah et Daouz, deux kinésithérapeutes d'handicap international, se rendent régulièrement chez lui et l'aident dans sa rééducation. Il lui montre quelques exercices à faire.
Almost he's independent in all daily life activities.
Vous voyez, il est maintenant capable de se débrouiller tout seul. Il fait correctement les exercices par lui-même. Il a fini par s'adapter à sa nouvelle situation. Il s'en sort bien, il fait sa toilette, se douche, s'habille. Il peut aussi mettre et enlever ses prothèses seul, sans aide extérieure. Donc oui, il se sent de mieux en mieux.
Ramiz reprend petit à petit sa place d'homme de la maison. Avec une partie de sa famille, il est installé dans un appartement à Ramsa, localité la plus proche de la frontière syrienne. Il voudrait s'en sortir mieux, mais sa situation de réfugié et d'handicapé complique la recherche d'un job. Les autorités jordaniennes se sont engagées à délivrer 26 000 permis de travail, prioritairement pour recruter de la main-d'œuvre, notamment dans l'agriculture. Sinon, l'aide onusienne varie de 10 à 20 dinars jordaniens par mois et par personne, soit entre 13 et 25 euros.
Au départ, il était mécanicien, il avait un truc de réparation de voiture. Donc, c'était ça son métier. Et donc maintenant, bon, c'est évidemment un métier qu'il ne pourra jamais reprendre. Il dit, si jamais je trouve du boulot, bon, c'est vraiment parce que quelqu'un a envie d'être gentil avec moi, quoi. S'il a déjà l'autorisation et la possibilité et qu'il trouve un employeur prêt à le prendre dans sa condition, les allocations de réfugiés s'arrêteront dès lors qu'il aura un salaire. Mais est-ce qu'il peut trouver, même dans ces conditions-là, je veux dire, c'est pas encourageant de trouver un travail?
Bien sûr, Ramiz suit ce qui se passe dans son pays.
Ses parents sont encore là-bas, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas pu les voir. Et elle prend de leurs nouvelles à travers sa tante. Mais ils sont encerclés, ils ne peuvent pas sortir. Elle a un frère blessé qui ne veut pas être évacué.
Et ils se parlent par téléphone?
Non, justement. Elle n'arrive même pas, il n'y a même pas de liaison téléphonique. Tout est coupé. Il est encerclé par l'armée et bombardé régulièrement.
Ramiz se tient au courant, regardant la télé, et il ironise. Quand je regarde la télé gouvernementale syrienne, c'est formidable, tout va bien, le pays s'en sort. Et quand je prends Arabia, c'est la grande tragédie, il n'y a ni Syrie, ni Syrien. Et il conclut sur son sort de réfugié, malgré tout, on ne peut dire qu'on est bien que quand on est dans son pays.
Un dossier suivi par Nadine Epstein. Merci à vous. 24 nouveaux corps ont été retrouvés au large de l'Égypte ce vendredi. Ils portent à 79 le nombre de victimes du naufrage de mercredi, naufrage d'un bateau de pêche transportant près de 450 réfugiés à 12 km de la ville de Rosette. 500 millions de comptes Yahoo piratés. Le géant américain de l'Internet a révélé hier avoir été victime de cette cyberattaque fin 2014, une des plus grosses jamais menées aux États-Unis. Cette attaque concernerait des informations personnelles d'utilisateurs, des noms, des mots de passe, mais pas de données bancaires, a précisé Yahoo. L'entreprise américaine y voit la signature d'une entité adossée à un État. Une version qui ne convainc pas Nicolas Harpagian, auteur du livre La cybersécurité et directeur de la stratégie d'Orange Cyberdéfense.
L'attaque qui a visé Yahoo ne correspond pas aux critères des attaques d'origine étatique, puisque les attaques émanant d'un État, en général, ciblent des individus de manière beaucoup plus restrictive, de par leurs fonctions. Ça peut être des activistes, des dirigeants politiques, des responsables économiques. Et on est rarement sur des opérations de si grande ampleur, parce que là, il s'agit, lorsqu'on parle de centaines de millions de comptes, d'une activité qu'on voit plus fréquemment dans les organisations criminelles, avec déjà des piratages qu'on a pu constater concernant la messagerie professionnelle LinkedIn ou même le site Tumblr, d'ailleurs filiale de Yahoo. Et c'est vrai que l'exploitation de cette information est très recherchée par les cybercriminels, puisqu'elle a une valeur sur les différentes places de marché. Les données personnelles, comme les comptes de messagerie, les mots de passe, peuvent servir d'une part à des opérations d'usurpation d'identité, à des escroqueries, puisque, prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait accès à des messageries en grand nombre, peut par exemple conduire une petite recherche avec le mot IBAN. C'est une composante des relevés d'identité bancaire et ainsi vous pouvez extraire tous les messages qui comportent des références bancaires et ça peut être monétisé comme étant des informations thématiques, c'est-à-dire que vous pourrez revendre avec un fichier à jour et aggloméré en quelque sorte avec uniquement des données bancaires.
Interview signée Louis Belenfant. C'est une figure médiatique, animateur radio, producteur télé. Jean-Marc Morandini est mis en examen pour corruption de mineurs aggravés. La vedette a été placée sous contrôle judiciaire après 48 heures de garde à vue suite aux accusations de deux jeunes hommes. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Au départ, il y a eu cette enquête des Inroc en juillet qui a déclenché une série de poursuites.
Une enquête dans laquelle de jeunes comédiens racontaient les conditions de recrutement et de tournage pour une web-série. Ils accusent Jean-Marc Morandini d'avoir profité des castings pour les pousser à s'exhiber nus. 5 de ces comédiens majeurs au moment des faits reprochés ont déposé plainte, déclenchant une enquête pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. Et c'est à la suite de cet article que 2 jeunes hommes mineurs au moment des faits reprochés ont saisi la justice. Le premier plaignant reproche à Jean-Marc Morandini de lui avoir fait des propositions sexuelles alors qu'il n'avait que 15 ans. Le second affirme avoir été contacté à l'âge de 16 ans par la société de production de l'animateur pour un obscur projet de remake de Ken Park, ce film de Larry Clark mettant en scène la sexualité d'adolescents. Le plaignant affirme avoir été convié seul au domicile de Jean-Marc Morandini. Ce dernier l'aurait invité à poser nu pour une séance de photos. Le remake, lui, n'a jamais vu le jour. Des indices graves et concordants ont donc conduit le juge d'instruction à mettre Jean-Marc Morandini en examen. Il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les plaignants et d'exercer une activité professionnelle en lien avec des mineurs. Il doit par ailleurs signaler toute sortie du territoire national. C'est une affaire de mœurs, comme il en existe malheureusement beaucoup d'autres, mais la personnalité du suspect en fait une affaire à part. Jean-Marc Morandini faisait la pluie et le beau temps dans le milieu médiatique avec ses émissions de radio et de télévision et son blog, n'hésitant pas à régler ses comptes sous couvert de décryptage des médias. Ce petit milieu médiatique ne lui fait pas de cadeau aujourd'hui, mais comme pour n'importe quel justiciable, la présomption d'innocence doit s'appliquer aussi à Jean-Marc Morandini.
Merci Antoine Maretz pour vos précisions. La météo de votre samedi, elle sera ensoleillée partout en France, sauf sur la façade ouest où il y aura quelques nuages. Les températures de votre matinée de 17 à Strasbourg, à 24 à Ajaccio.